France Musique. Les grands entretiens, Laurent Villarem.
Je m'appelle Marc-André Dalbavy, je suis compositeur et donc j'écris majoritairement pour les formations symphoniques, les formations de musique de chambre et des opéras actuellement.
Avec vous, je voudrais, Marc-André Dalbavy, je voudrais revenir à ces images d'enfance, car il y a une œuvre de vous qui s'appelle, ce serait mieux que si vous le disiez vous-même en anglais, The Dream of a Unified Space.
Oui, c'est ça, The Dream of Unified Space. Oui.
Donc le rêve d'un espace uni.
Oui.
Est-ce que cet espace uni, cette nostalgie, c'est l'enfance selon vous? C'était quoi les premiers bruits d'enfance, les premiers bruits
oui,
d'enfance?
Oui, bien sûr, c'est... Évidemment, il y a une relation à l'enfance. Les premiers bruits d'enfance, c'est pour moi surtout des bruits musicaux, puisque très vite j'écoutais de la musique avec mes parents. Ma mère écoutait beaucoup de musique, elle en chantait, donc voilà, la musique était toujours un peu présente.
Vous entendiez sa voix dans une pièce, autre pièce ou devant vous?
Non, jamais devant moi. Non, c'est vrai que ma mère chantait pour elle-même, donc elle aimait ça. Donc effectivement, la voix très vite était le quotidien, disons, la voix chantée. Mon père chantait pas par contre, mais lui effectivement, il écoutait beaucoup de musique et j'allais souvent me réfugier avec lui pour écouter. Et donc oui, très vite la musique a été importante et présente quand j'étais enfant, depuis très jeune. Et quand j'allais voir ma grand-mère, elle jouait tout le temps du piano, elle jouait très souvent du piano. Elle jouait à nous, à mes frères, à moi. Elle adorait ça. Et elle jouait la musique qu'on jouait à cette époque-là, c'est-à-dire beaucoup de Chopin, des musiques de Beethoven, beaucoup de Mozart. Et je me souviens, ma grand-mère était née elle, au 19e siècle, donc ça fait un petit moment. Et je me souviens que quand je lui ai appris que je rentrais au Conservatoire de Paris pour être compositeur, et là, c'est dans les années 80, hein, elle m'a posé la question, mais dis-moi, qu'est devenu ce jeune compositeur Claude Debussy? Donc voilà, elle était même intéressée de ce qui se passait à Paris à l'époque. Et là, je parle au moment où elle s'est intéressée à ça, c'est-à-dire les années 10, les années 20. Elle savait même pas que Claude Debussy était mort. C'était encore une vie de province, hein.
Est-ce que vous avez commencé par le piano? Est-ce que ça aurait été différent? Votre musique aurait été différente si vous aviez commencé par, disons, la clarinette ou le violon?
J'ai appris la clarinette aussi, donc, mais plus tard. Oui, je pense que la musique aurait été totalement différente. L'apprentissage d'un instrument est très important dans la constitution de l'imaginaire d'un jeune musicien, d'un jeune compositeur. Le fait d'avoir commencé au piano effectivement donne une ouverture sur le monde harmonique, par exemple, qui est très importante, que l'on a moins lorsqu'on joue de la clarinette ou du violon. Donc je peux pas dire que ça aurait été indifférent. Non, ça a été fondateur. Et d'ailleurs, ça a été, je pense, tellement fondateur que j'ai mis beaucoup de temps à écrire pour piano. J'ai mis la première vraiment pièce pour piano que j'ai écrite, c'est mon concerto pour piano. Je ne sais plus quand j'ai écrit cette œuvre, mais c'est à la fin des années
2005.
2000. Oui, 2005, 2006. Donc, il a fallu un certain temps avant que j'écrive pour l'instrument qui m'a vu naître en musique.
Et excusez-moi, mais c'est vrai que le vin crée des belles saveurs. Là, j'ai l'impression d'être un peu ivre, alors qu'on n'en boit pas. Vous voulez en prendre, Marc-André ?
Non, merci. Non, là, c'est trop tôt.
Alors, avec le piano, est-ce que vous pianotiez ? Il y avait un vrai plaisir de découvrir les touches, ou alors vous faisiez vos gammes ?
Ah oui, mais je pense comme tout jeune pianiste, voilà, je pianotais beaucoup, évidemment. Découvrir l'instrument, pouvoir le maîtriser, imaginer des sonorités, imaginer des harmonies, j'ai passé mon temps à faire ça. Maintenant, les gammes sont importantes, hein, donc la technique, la discipline, c'est des choses à laquelle j'ai été astreinte, ça forcément. C'est peut-être une des raisons qui m'a détourné du piano, parce que j'aurais dû en faire ma profession. J'étais engagé dans cette voie-là. Et puis finalement, je ne suis pas allé vers le piano, j'ai été plutôt vers un domaine plus créatif. Et je pense que pour moi, c'est le temps passé au travail du pianiste pour pouvoir ensuite jouer de la musique est un temps que j'ai trouvé trop long par rapport au temps qu'on pouvait passer à vraiment se faire plaisir. Donc je pense que ça a été important pour moi. Vous savez, le monde du piano a beaucoup évolué, beaucoup changé. Il est devenu très, très compétitif. Et la demande de virtuosité et d'engagement pour les pianistes est redoutable actuellement. Il faut beaucoup passer de temps sur le clavier à maintenir une technique de très haut niveau. Et ce temps-là, j'ai pas voulu le payer.
Avez-vous découvert la musique contemporaine ? C'est au piano ou c'est en faisant vos propres œuvres ou c'est la rencontre avec un musicien ou un professeur ?
Alors au départ, je dois dire que la première fois que j'ai entendu de la musique contemporaine, c'était à la radio. Et c'était, je me souviens très bien, je devais avoir 12 ans. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça n'est pas de la musique. Donc j'étais très réfractaire, jeune, très jeune. La musique contemporaine, en fait, ça a été la rencontre, évidemment. Ça a été la rencontre avec un ami qui était passionné, qui m'a fait découvrir d'abord Alban Berg. Donc, ça a été le premier compositeur que j'ai aimé, qui n'était pas de la musique contemporaine, mais qui était dans la musique moderne, ce qu'on appelle la musique moderne. Donc, les années 20, 30... évidemment, à partir d'Alban Berg, très vite la pelote s'est déroulée. C'est-à-dire, j'ai accédé à Webern, puis j'ai ensuite découvert les héritiers. Donc très vite Boulez, et après j'ai compris ce qui se passait à partir du moment où j'ai découvert des gens comme Stockhausen, Ligeti, enfin qui avaient véritablement la volonté d'une exploration plus large de la musique. Donc ça m'a fasciné, surtout à un âge où j'ai découvert la musique contemporaine, c'est-à-dire vers 15-16 ans, qui est un âge qui est propice, je pense, à l'émerveillement de contrées inconnues.
Thank you. Lontano, ça a été le choc de Ligeti, ça a été le grand choc.
Oui, Lontano, absolument, Lontano, mais presque toutes les œuvres de Ligeti. Évidemment, quand j'ai découvert Lontano, j'ai découvert ensuite le Kama Concert, et puis toutes ces œuvres m'ont fasciné. Fasciné parce qu'elles étaient justement, elles remettaient en cause peut-être une certaine unité de temps musical. Et aussi le projet sonore, aussi le projet intellectuel m'intéressait beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je lisais beaucoup, donc je voulais comprendre. J'étais un enfant qui ne voulait pas accepter les choses telles qu'elles étaient. Donc il avait envie de creuser, de savoir pourquoi. C'est un côté un petit peu enfantin. Vous voyez, les enfants demandent toujours pourquoi. Voilà, ben, j'ai continué à le demander, à garder cette part de l'enfance. Et une grande partie de ce qui se faisait dans les années 50 et 60 me posait des questions, et posait des questions intéressantes sur un art que finalement je pratiquais par héritage, mais peut-être un art dont je ne comprenais pas, ou en tout cas on ne m'expliquait pas évidemment les significations profondes de l'art que je jouais. Et de découvrir la musique contemporaine, de m'y investir, a été un peu ce pas de côté qui permet de voir, qui permet de créer un peu une distance et de relire cet héritage, d'essayer de le comprendre, pourquoi il me procurait des émotions. Parce que ce qui est important, c'est évidemment le bout de ce que la musique produit, qu'est-ce qu'elle produit en vous, pourquoi la musique remue autant de choses. Tous les amateurs de musique, qu'ils soient musiciens ou mélomanes, le savent. Il y a une décharge émotive très forte de la musique. Elle produit vraiment des effets puissants, profonds. Et évidemment, la musique contemporaine a été pour moi ce moment où je voulais comprendre aussi pourquoi je réagissais comme ça à telle œuvre. Et pourquoi aussi j'éprouvais des émotions sur des choses que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas.
Mais chez vous, il y a l'idée de s'émerveiller ?
Oui, absolument. Mon contact, c'est ce qui me différencie beaucoup de mes amis, de mes collègues, compositeurs de mon âge, de certains en tout cas. C'est que pour moi, la musique est d'abord un émerveillement. Je ne suis pas allé vers la musique contemporaine par engagement, par exemple. Mais c'est vraiment l'idée d'exploration, de découverte de quelque chose d'autre, de terrain inconnu. C'est ce qui m'a fasciné dans tout ce que faisaient ces compositeurs. Même si la dimension de critique qu'impliquait tout cet ensemble de compositeurs, qu'impliquait leur travail, je le comprenais. Mais pour moi, je ne le prenais pas... Je ne le prenais pas de cette façon.
France Musique, les grands entretiens de Marc-André Dalbavy.
Vous entrez au Conservatoire de Paris à 22 ans, je crois.
Oui, 19-20 ans, oui.
Et en même temps, à 19 ans, vous avez fait un stage, comment dit-on ça? Vous avez travaillé avec John Cage.
Oui, ça c'est... Alors très étonnamment, c'est ma mère qui m'avait orienté vers ça. Elle avait entendu parler de ce stage. Comme John Cage était un compositeur américain, elle trouvait que c'était bien que j'aille faire un peu quelques armes auprès d'un compositeur de son pays. Il faisait effectivement un stage à Londres avec Merce Cunningham. Et j'ai dit pourquoi pas, c'était l'été, j'avais du temps libre, Les examens étaient derrière moi. Je suis parti rencontrer John Cage. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé John Cage comme personne, et ses idées. Je trouvais ses idées merveilleuses. Enfin, il était vraiment dans toute cette mouvance américaine des années 50, 60. Donc, c'était vraiment la grande époque avec Merce Cunningham.
C'était un homme chaleureux.
Oui, c'était un homme extrêmement bon, on peut dire. Très bon, très bienveillant. Mais je dois dire que l'homme qui a presque changé ma vie, c'était Merce Cunningham. Quand j'ai découvert Merce Cunningham, qui était là avec John Cage, puisque tous les deux faisaient un stage en commun, l'un pour des danseurs et l'autre pour des compositeurs. D'ailleurs, nous, comme compositeurs, on était obligés de prendre des cours de danse, ce qui était assez drôle.
Vous êtes un bon danseur ?
Je crois pas, parce que, vous voyez, je n'ai pas persévéré. J'ai pris des cours auprès des danseurs de la compagnie Cunningham, des cours de danse à l'époque, car on avait des cours de musique et des cours de danse en parallèle. Donc ça, c'était vraiment intéressant, c'était passionnant. Mais la rencontre avec Cunningham a été absolument déterminante pour moi. Et surtout, la découverte d'une œuvre qui s'appelle Tors, qui a été diffusée, je me souviens, à l'Opéra de Paris, il y a une vingtaine d'années, parce qu'il existe un film en trois écrans. Et ça a été une révélation. Et le personnage... Merce Cunningham lui-même m'a beaucoup impressionné, donc j'étais parti pour rencontrer John Cage, et je suis revenu avec l'image de Cunningham. Mais c'est vrai qu'ensuite, lorsque j'ai revu John Cage, lorsqu'il venait à Paris, il y a toujours eu une relation chaleureuse entre nous deux. Non, c'était un homme que j'aimais beaucoup, mais plus comme intellectuel que comme musicien ou comme compositeur en tout cas.
Comment c'était le Paris musical des années 80 ?
Oui, alors quand j'étais au conservatoire, effectivement, c'était un moment très enthousiasmant. Il y avait beaucoup de courants, il y avait donc beaucoup d'échanges, donc il y avait une vie musicale qui était très ouverte et quelquefois très conflictuelle, mais en même temps très passionnante. Oui, tous mes amis, tous mes camarades à l'époque on passait notre temps à aller écouter les concerts de création, les nouvelles œuvres, les nouveaux compositeurs qu'on pouvait découvrir. Enfin, c'était vraiment, c'était très excitant. Ça, c'est une période merveilleuse.
Quand avez-vous découvert Griset, Muraille ? C'était à l'occasion d'un concert, je crois. Ça a été une découverte soudaine ou vous en aviez entendu parler ?
Non, ça a été une découverte soudaine. C'est pas lors d'un concert, c'est lors d'un stage qu'ils ont fait au Conservatoire de Paris. Ils avaient été invités par le directeur, donc l'ensemble itinéraire en entier. Il y avait Michael Levinas, il y avait Hugues Dufour. Alors, Hugues Dufour était un satellite, il n'était pas vraiment... mais il était présent dans ce groupe de compositeurs. Et il y avait Gérard Griset et Tristan Muraille.
Vous avez étudié avec lui d'ailleurs durant un an.
Donc j'ai étudié ensuite, à l'issue de ce stage... Plusieurs de mes amis, on s'est regroupés pour demander à Tristan Muraille de nous prendre comme élèves.
La musique spectrale, comment pourrait-on définir ça pour nos auditeurs ?
Là, je ne ferai qu'une définition partielle, telle que je la vois. Et donc, elle sera contestée par mes amis, j'imagine. Bon, la définition la plus simple, c'est sa procédure, c'est-à-dire de prendre un son musical, un son acoustique, un son de trombone ou un son de cloche ou de gong, de l'analyser avec des matériaux technologiques, évidemment, et puis de pouvoir en décrypter sa structure spectrale, qui est en fait la structure harmonique qui définit ce son. Et à partir de cette analyse, de cette compréhension du positionnement des harmoniques, à en déduire, d'en déduire une sorte de métaphore harmonique, d'outil harmonique pour pouvoir ensuite disposer et redéployer ces harmoniques à travers soit un ensemble de musique, soit un orchestre. Si on résumait, on pourrait dire que c'est une sorte de retour à un certain naturalisme qui avait disparu au cours des années 50 ou 60, où on était rentré plutôt dans une sorte d'excroissance d'une vision théorique de la musique.
Et l'exemple le plus célèbre se trouve peut-être dans Partiel de Griset.
Absolument. Partiel, le début de Partiel est, on peut dire, le manifeste spectral par excellence, où on a cette contrebasse qui expose la fondamentale et tout l'orchestre jouant les harmoniques de cette fondamentale. Contrebasse et
trombone,
si je me souviens, parce que c'était le spectre était celui du trombone qui était déployé à l'orchestre.
C'est cette œuvre-là qui a provoqué un choc en vous
Oui. Alors, pour moi, c'était évidemment... Là, je pense que chaque compositeur présent lors de l'écoute de Partiel aura une écoute différente et une vision différente. Mais pour moi, il était très clair que l'aspect consonant, à travers l'harmonicité, vous savez, dans la musique spectrale, on définit la consonance comme un phénomène harmonique, de l'harmonicité. Il y a l'inharmonicité qui pourrait être la dissonance, et l'harmonicité qui pourrait être la consonance. C'est un peu plus complexe que ça, mais on pourrait résumer la chose de cette manière. Mais le fait qu'un compositeur expose un objet sonore harmonique, après les 20 ou 30 ans de musique sérielle, a été effectivement un choc pour tous les jeunes compositeurs présents.
C'était le retour de l'émerveillement ?
Alors, il est possible qu'ensuite l'émerveillement ait pu se loger dans cette fusion, cette nouvelle fusion des harmoniques. Mais c'était surtout l'idée que après la contestation atonale de la tonalité, la consonance pouvait non pas, on ne revenait pas à la consonance, mais on pouvait réinvestir la notion de consonance après un passage de l'atonalisme. Donc, effectivement, c'était quand même un des grands interdits qui a été levé par Gérard Griset.
Les périodes de Gérard Griset par l'ensemble Court Circuit pour refermer ce deuxième épisode des Grands Entretiens avec Marc-André Dalbavy. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Pierre Henry, mixage Valérie Lavalard, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.